Nous restons debout, nous allons lire ce texte dans l'évangile de Luc. J'espère que vous avez la joie d'avoir votre Bible avec vous et que vous pouvez lire dans le Saint Livre cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus, évangile de Luc, chapitre 12, verset 41. Lisez bien et vous comprendrez ce que vous avez entendu correspond, croyez-moi. Luc, chapitre 12, verset 41. Et nous lirons tout à l'heure notre texte dans Ésaïe 41. Une promesse. Luc 12, 41. Pierre lui dit, c'est en ce qui concerne le fait d'être prêt. Vous avez vu au verset 40, vous aussi, tenez-vous prêt. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. Je relis cette phrase. Le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous gardez ce texte, parce qu'on va y revenir, et vous lisez avec moi dans une promesse qui s'adresse aux chrétiens fidèles, dans Ésaïe 41, au verset 10. C'est une promesse qui est adressée aux serviteurs et aux servantes fidèles. Ce n'est pas adressé à tout le monde. Bien sûr que c'est adressé à tout le monde. Mais les promesses, elles sont conditionnées, vous le savez. Ésaïe, chapitre 41, verset 10, vous avez certainement été arrêté par cette promesse. C'est Dieu qui parle à ses serviteurs et à ses servantes. Je le répète, aux chrétiens fidèles. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Vous pouvez vous asseoir, car je suis ton Dieu. Vous savez, c'est facile de dire mon Dieu. Beaucoup de gens disent mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sans cesse, quand vous regardez un reportage sur les États-Unis, presque chaque fois vous entendez « My God ». Vous n'avez pas remarqué? Vous savez, c'est une chose de dire « Mon Dieu », mais souvent le « mon », il est de trop. Croyez-moi. Et il y a des promesses. Ces promesses, elles sont là, elles sont éternelles. Et si vous êtes ces enfants fidèles, si vous êtes ces enfants obéissants, vous pouvez vous attribuer cette promesse. Le Seigneur vous fortifiera en 2016. Le Seigneur sera fidèle, le Seigneur sera votre Dieu, le Seigneur sera votre Père. Mais voilà, vous l'avez entendu, on pourrait presque arrêter le culte. Les prophéties étaient suffisamment claires pour que nous comprenions qu'il y a des gens qui se préparent. Et vous avez vu avec moi, c'est pour ça que je vous ai demandé de relire le verset 47, les serviteurs qui ayant connu la volonté du Maître n'a rien préparé. Vous l'avez lu avec moi ? Luc 12, verset 47. Ceux qui n'ont rien préparé. L'épouse, dit l'Apocalypse. L'épouse du Seigneur, elle est l'épouse. Parce qu'il y a l'épouse. Bon, je vais pas expliquer tout ça. Mais il y a l'épouse et il y a l'Église. Vous allez me dire, c'est pareil. Non. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts, qui ne font pas partie de l'épouse. Ils ne sont pas revêtus de robe blanche. Ils ne sont pas préparés. Et l'Apocalypse dit que l'épouse, celle qui est revêtue de fin lin, blanc et catin pur, c'est une épouse, elle s'est préparée. Et vous allez me dire, mais si je suis à l'église, c'est que je me prépare. Non, ce n'est pas parce que vous êtes ce matin dans un lieu de culte que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur. Et vous savez, je vais vous dire, ce que je vous dis, ce n'est pas important, mais c'est ma pensée. Ce n'est pas grave ce que je vais vous dire. J'aurais préféré prêcher autre chose. Parce que j'ai des choses à partager avec vous qui m'intéressent, qui sont pour les chrétiens qui vont bien. Les chrétiens qui sont mûrs, les chrétiens qui sont attachés à Dieu. J'ai des choses dans mon cœur qui permettraient à certains d'avancer. Mais je me dois de me soumettre au Saint-Esprit. Et je voudrais une fois de plus apporter le conseil de Dieu pour tous ceux qui ne sont pas prêts. Car Dieu, c'est comme dans une famille. Si vous avez 5 enfants, si vous en avez un de malade, c'est lequel que vous allez vous occuper? De celui qui est malade. Hein? Oui ou non? Eh bien là, c'est pareil. Je dois m'occuper de ceux qui ne sont pas prêts. De ceux qui viennent à l'église et qui s'autorisent à vivre dans l'insouciance, dans l'illusion. Nous devons savoir, en sortant de ce temple tout à l'heure, nous devons tous savoir si notre cœur est ouvert. Nous devons tous savoir si nous sommes prêts ou pas à rencontrer le Seigneur. Nous devons le savoir. Mes frères et sœurs, je ne veux pas sortir de mon sujet. Vous avez vu ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que vraiment nous ouvrons les yeux? Et puis, vous savez les infos, ils disent certaines choses, mais ils disent que ce qu'ils veulent. Nous sommes manipulés, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut absolument pas le voir. C'est impossible. Mais nous sommes manipulés, n'oubliez pas que ce n'est pas Dieu qui dirige la télévision, je vous le dis. Et ce qui se passe au Moyen-Orient est la preuve, est un avertissement, comme la prédication, il y a des avertissements. Le monde est averti que cette guerre de Gog et Magog, elle arrive. Écoutez-moi mes frères et sœurs. C'est archi sérieux. Ce n'est pas une lubie. Je le sais. La guerre d'Ézéchiel 38-39 est une guerre qui est en train de se préparer. Alors, on va juste y aller quelques instants. C'est dans Ézéchiel 38 et 39. Et je vous encourage à lire ces deux chapitres. Pas à les lire, à les méditer 50 fois, 100 fois s'il le faut. Mais je peux vous dire que si vous êtes avec le Saint-Esprit, il vous parlera au travers de ces deux chapitres. Et croyez-moi, nous sommes en train d'assister à la préparation de cette guerre contre Israël. Vous croyez que c'est contre Daesh, mais moi je peux vous dire que c'est un prétexte pour attaquer Israël. Je vous le dis, vous le verrez. Et si vous n'êtes pas enlevé, vous regretterez de ne pas avoir écouté ce que je vais vous dire. Parce que moi je vous dis que l'Église va bientôt être enlevée. C'est peut-être une question de moi, je ne sais rien. Mais une chose est sûre, mes frères et sœurs, l'Église... Alors on va lire. Ézéchiel 38. Il faudrait lire les deux chapitres pour que nous comprenions bien que la colère de Dieu est en train de venir. On le fera. Mais je sais que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Les chrétiens mûrs sont prêts, mais les chrétiens, il y a des gens parmi nous qui ne sont pas prêts. Et vous avez besoin de vous remettre dans le royaume. Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Alors bien sûr, c'est après le chapitre 37. Après le chapitre 37, qui est le retour des Juifs en Israël, les ossements desséchés, parce que Ézéchiel, c'est vraiment des prophéties, on les utilise des fois pour l'Église, mais je peux vous dire que c'est des prophéties qui sont uniquement pour Israël. Le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui concerne qu'Israël. Et le chapitre 37 nous parle d'Israël qui est redevenu une nation quand, le 14 mai 1948, Israël est redevenu une nation. Parce qu'il y a beaucoup de théologiens, si vous allez sur Internet, faites attention, qui vous disent que la guerre de Gog et Magog, c'était la première guerre mondiale. Mais si vous lisez, vous allez vite comprendre qu'il fallait que Israël soit redevenu une nation. Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog c'est un homme, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier, le petit bouclier, tous maniant l'épée avec ceux de Perse, la Perse c'est l'Iran, l'Éthiopie de l'époque c'est le Soudan actuel, et de Put, la Libye. tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, c'est la Russie, à l'extrémité du septentrion. Plusieurs fois, il est écrit à l'extrémité du septentrion. Quand on parle du nord, ou du sud, ou de l'est, ou de l'ouest, dans la Bible, c'est toujours par rapport à Israël. Et l'extrémité du septentrion de Jérusalem, c'est la Russie. Écoutez, moi j'ai lu des milliers de choses dessus, je peux vous dire que ça concerne un pays puissant au-dessus d'Israël, c'est automatiquement la Russie. Et toutes ces troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef, après bien des jours. Ça a été écrit il y a 2600 ans. Mettez-vous bien qu'Ézéchiel, ça a été écrit il y a 2600 ans, après bien des jours. Vous comprenez bien que Dieu nous avertit à l'avance, moi je vous le dis. Tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Vous voyez ? Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras. Tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Regardez au verset 18, il faudrait tout lire, franchement il faudrait le lire, mais faites-le dans vos cultes personnels. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je vous avais dit que dans la version du rabbinat, c'est que ma colère me montera à la tête. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. Dieu va intervenir. Vous lirez ces deux chapitres. Et vous savez, par exemple, regardez, je vous le dis parce que c'est quand même intéressant. Au chapitre 39, vraiment tous ces pays vont être détruits par Dieu. Verset 9. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront. Et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Toute la période qui va suivre après l'enlèvement de l'Église, jusqu'au millénium. Comment on peut faire du feu avec des armes? Mais j'ai regardé, vous savez avec Internet aujourd'hui c'est extraordinaire, vous pouvez tout savoir. Et j'ai regardé en quoi étaient faites les armes actuelles dans ces pays, en Russie. Elles sont faites avec un produit qui s'appelle le lignostone. C'est du bois compressé, d'une telle façon, il y a une telle pression que c'est plus dur que l'acier. Et toutes les armes qui sont faites aujourd'hui en Russie, toutes sont faites avec ce matériau qui est plus dur que l'acier. Et c'est du bois, c'est du matériel qui brûle. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 2600 ans. Et si on prend chaque verset, c'est archi intéressant. Mais moi, pourquoi je vous ai lu quelques versets? C'est pour vous dire que Dieu nous avertit, il avertit le monde, il a averti Israël, il a averti l'Église. Et ça, cette affaire, quand cette affaire va se passer, regardez le dernier verset du chapitre 39, c'est clair, Dieu va répandre son esprit sur la maison d'Israël, Ézéchiel 39, verset 29, je ne leur cacherai plus ma face, c'est sûr qu'Israël, pour le moment, le projecteur était éteint, croyez-moi, de Dieu. Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous savez que quand la totalité des païens sera sauvée, dit la Bible, l'Église sera enlevée. Et Dieu répandra son esprit sur Israël. Alors, franchement, je vous assure, on va faire cette étude sur Ézéchiel, mais je le répète, certains ont besoin d'entendre autre chose. Dieu va répandre son esprit sur Israël. Si Dieu répand son esprit sur Israël, c'est clair, c'est que la colère de Dieu, elle est venue, c'est que l'Église, elle a été enlevée. Parce que vous pouvez lire le Nouveau Testament comme vous le voudrez, si vous êtes sérieux, vous savez très bien que l'Église ne peut pas connaître la colère de Dieu. Alléluia. Vous pouvez dire merci Seigneur. L'Église, c'est impossible. Si quelqu'un essaie de me prouver le contraire, écoutez, ça ne sert à rien d'ailleurs. Mais je vous dis que c'est impossible. Les chrétiens, ils sont épargnés de la colère. Ils sont sauvés de la colère. C'est dit de mille et une manières. Mais ceux qui ne sont pas sérieux avec Dieu, la Bible dit qu'ils s'amassent un trésor de colère. C'est une expression que Dieu a voulu utiliser pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Les gens qui ne se soucient pas de connaître Dieu, c'est écrit dans les Romains chapitre 1 et 2. La Bible dit que ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu, ils sont inexcusables. On est inexcusables. On peut dire, oui, si Dieu existait, c'est facile. C'est tellement facile de régler le problème si Dieu existait. Mais laissez-moi vous dire que si vous faites partie de cette catégorie de gens-là, vous êtes vraiment mal barré, moi je vous le dis. Parce que laissez-moi vous dire qu'on est inexcusable. C'est écrit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, les hommes sont inexcusables. Inexcusables. Je pourrais le développer de plusieurs façons. Et si vous ne vous souciez pas de connaître Dieu, si la bonté de Dieu ne vous pousse pas à la repentance, alors ceux qui sont très très affairés vont dire « la bonté de Dieu, vous plaisantez ?» Quand l'Église sera enlevée, vous allez voir ce que c'est un monde sans paix et sans la bonté de Dieu. J'espère que personne n'aura l'occasion de le vérifier. Les enfants, nos ados, c'est peut-être pour toi ce matin que Dieu m'a mis à cœur ce message. Je le répète, moi j'aurais préféré partager autre chose. Mais la Bible est catégorique. Celui qui a entendu la volonté de Dieu et qui n'a rien préparé sera battu d'un grand nombre de coups. Ça veut dire qu'il ira en enfer. Alors justement, dans le texte qu'on a lu, il y a la preuve. Je le dis parce que des fois on me pose la question, est-ce que dans l'enfer, le châtiment sera pareil pour tout le monde? Ben non, c'est comme exactement dans le ciel, les récompenses seront différentes pour les croyants. Vous comprenez bien qu'un chrétien qui se convertit comme le brigand sur la croix quelques minutes avant de mourir parce qu'il a peur de mourir et qui demande pardon à Dieu pour ses péchés, pardon Seigneur, j'ai péché contre toi, contre le ciel, pardonne-moi, Dieu le pardonne. Mais au niveau des récompenses, il n'y aura pas grand-chose. Et imaginez le chrétien qui marche avec Dieu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui est fidèle dans tous les domaines, vous comprenez bien, qui aura tout fait pour l'œuvre de Dieu, vous comprenez bien que les récompenses seront proportionnelles. Et là, c'est pareil, vous l'avez lu avec moi? Regardez, verset 47. Celui qui a connu la volonté de Dieu n'a rien préparé. On a entendu deux dons spirituels. Prépare-toi. Deux fois. Vous savez, quand Dieu dit les choses deux fois, ça veut dire quelque chose. Et que Dieu soit béni pour les gens qui osent redire ce qu'ils ont à dire. Parce que des fois, on reçoit une prophétie et Dieu peut confirmer la prophétie. Et on n'ose pas parfois le dire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas oser, vous voyez. C'est bien, Nicolas, que tu aies osé le faire. Là, vous voyez, celui qui n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, il sera battu d'un grand nombre de coups. Celui qui ne l'ayant pas connu, il y a des gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, a fait des choses dignes de châtiment, donc, voilà, il est perdu, il sera battu de peu de coups. C'est la preuve que le châtiment dans l'enfer sera également proportionnel. Ça fait partie de la justice de Dieu. Donc il y a une année de grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce. Elle peut s'achever ce soir, elle peut s'achever dans les jours qui suivent. Elle va s'achever cette journée. Beaucoup de gens se sont souhaités les vœux de paix, de bonheur, et j'en profite pour le faire. Mais la paix, elle sera que dans le cœur des gens qui obéissent. Que dans le cœur de ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, l'amour, la joie. Il n'y a pas de photo possible. Si vous n'avez pas le Seigneur, vous pouvez prier tant que vous voudrez. Et il y avait une nouvelle chrétienne qui priait de tout son cœur. Bien sûr que Dieu entend ses prières. Et la femme, elle ne savait pas, bien sûr. Seigneur, je t'en supplie qu'il y ait la paix sur la terre en 2016. Il n'y aura pas la paix. Écoutez-moi, vous allez me dire, mais pour qui tu te prends? Parce qu'on ne veut pas de Jésus. Il n'y aura pas la paix. Il y aura l'effroi et la terreur. Vous entendez? Les prémices de la colère. Et le Seigneur nous avertit. Et ce qui est en train de se passer est vraiment révélateur. Dieu est en train de nous préparer. Mais si vous avez Internet, regardez, tapez guerre Russie, Israël, Gog et Magog. Alors, si vous ne connaissez pas trop la Bible, ne vous embarquez pas là-dedans parce qu'il y a de tout. Mais si vous connaissez bien la Bible, vous pouvez y aller. Parce que vous comprendrez ce qui est en train de se passer. Parce que c'est impossible si on n'a pas un minimum de discernement. Mais mes frères et sœurs, la colère de Dieu, elle vient. Quand Jésus est venu, quand dans la synagogue de Nazareth, il a commencé à exprimer son ministère, vous savez, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Il m'a envoyé, et puis pour publier une année de grâce. Point. Alors que quand vous lisez dans le prophète Ésaïe, Ésaïe dit une année de grâce et un jour de vengeance. Mais Jésus a arrêté la prophétie à la grâce. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour la grâce. Ça n'empêche pas que le jour de la vengeance viendra. Quand est-ce qu'il viendra? Quand l'Église sera enlevée. Et cette guerre qui est en cours, qui se prépare, mes frères et sœurs, mais je vous assure, ça ne peut pas être plus clair. Cette guerre qui est en train de se... Vous savez, la semaine dernière, mais ça, ils n'en parlent pas aux infos. Moi, je vais sur des journaux israéliens, franco-israéliens. Vous savez, il y a tout aujourd'hui. Et la Russie a rasé deux villes limitrophes en Syrie. Il a rasé deux villes entières. Deux villes à 15 km d'Israël, plateau préparé, je pense certaines choses, sur le plateau du Golan. Mais c'est clair comme tout, mes frères et sœurs. Et Dieu, dans sa bonté, permet qu'on le sache. Ce sont des choses qui sont écrites. Alors vous allez me dire, mais ça a été écrit il y a 2600 ans, est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? Moi, je vous encourage à prendre au sérieux ce que Dieu dit. Ces choses-là, elles sont sérieuses. Est-ce que vous avez préparé? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? Si vous n'êtes pas prêt, vous allez connaître la colère de Dieu. La colère, elle va venir. Mes frères et sœurs, mais je ne sais pas si vous réalisez, il y a des chrétiens qui aiment le monde. Il y a des chrétiens qui devraient être là ce matin, dans toutes les églises de Toulouse, dans toutes les églises de France, oui ou non. Et ils sont au lit, en train de dormir, parce qu'hier soir, peut-être, ils sont restés devant la télé jusqu'à 2h du matin, j'en sais rien, et je ne veux pas savoir. Mais mes frères et sœurs, combien de croyants devraient être ce matin dans les églises, en train de s'occuper de leur âme, oui ou non? Et oui, on est là pour s'occuper de son âme. Bien sûr qu'on est là pour louer Dieu. Bien sûr qu'on est là pour la communion fraternelle. Bien sûr qu'on est là pour se souvenir de l'œuvre de Christ au calvaire par le pain et le vin. Mais moi, je ne peux pas désobéir au Saint-Esprit et m'empêcher de parler à ceux qui ne sont pas prêts. Si Dieu m'a mis ça à cœur, je sais que des milliers de gens écoutent ces prédications sur Internet. Mais il est fort probable qu'au milieu de nous, il y ait des gens qui ne sont pas prêts. Vous savez qu'il faut vous préparer. Vous savez qu'il faut avoir une foi vivante. Tiens donc, votre foi est-elle vivante? Ah oui, le premier texte sur les pleurs et les grincements de dents, c'est Jésus s'adresse aux croyants qui n'ont pas de foi. Et Jésus parle à ses pharisiens, c'était les pasteurs, en plus de l'époque, qui se gargarisaient de « Ah eux, ils connaissaient Dieu tellement qu'ils ont fini par le crucifier, vous voyez ?» Pour vous dire comment ils le connaissaient. Et Jésus dit « Mais les fils du royaume, ils étaient furieux, c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer plusieurs fois. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mais je comprends, mais maintenant, ils étaient furieux. La Bible dit que quand Jésus prêchait, ils étaient remplis de colère. Remplis de colère. Ils n'acceptaient pas d'être repris. Je ne sais pas si vous acceptez d'être repris. Vous acceptez d'être repris? Vous acceptez la sévérité du Seigneur? Vous êtes malheureux si vous n'acceptez pas d'être repris. Vraiment, vous êtes les plus malheureux. Un chrétien, il accepte d'être repris parce qu'un chrétien, il veut plaire à son Dieu et il dit, Seigneur, parle-moi d'une manière ou d'une autre, ça m'est égal, mais parle-moi. Et Jésus dit, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas la foi. Et si je dois me poser la question ce matin, mais est-ce que je vis par la foi? Est-ce que je vis par la foi ou est-ce que je vis par mon intelligence, par ma déduction? Combien de gens ne prennent pas au sérieux l'enlèvement de l'Église? Il y a plein de chrétiens qui disent « oui, mais on a le temps, s'il y en a peut-être pour 1000 ans ». Écoutez, moi je pense que ça va être un peu plus proche. Est-ce que vous êtes prêts? Si le Seigneur venait aujourd'hui, ou s'il venait vous reprendre, est-ce que Dieu peut vous reprendre aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut vous reprendre ce soir? Est-ce qu'un camion peut vous foncer dessus? Est-ce que ça peut arriver? Eh bien oui! Quand on voit comment Jean-Baptiste est mort, cet homme, le plus grand homme qui existait sur la terre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Il dit que le plus grand qui a existé, c'est celui qui a précédé sa venue. C'est Jean-Baptiste. Alors on peut dire un grand homme de Dieu, il doit mourir d'une manière bien. Il est mort comment? Décapité. Vous avez vu comment Dieu a permis que cet homme meure? Alors si Dieu a permis qu'un de ses plus grands hommes meure de cette façon, il faut qu'on fasse attention. D'ailleurs, regardez au chapitre 13, ce chapitre 13. Oui, regardez. Il y a des gens qui s'interrogent sur justement la mort. Et ils se disent, mais il y a des gens qui ont péché plus que d'autres, c'est clair. Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Vous voyez un peu, ce Pilate, il était vraiment, vraiment malade. Vraiment malade, cet homme. D'ailleurs, si vous lisez, là, vous ne le savez pas sur la Bible, mais enfin, normalement, il s'est suicidé, cet homme, quand il est rentré en Rome. Regardez sur Internet l'histoire de Pilate, vous allez voir. Il a fini fou, mais avec ce qu'il a fait, ça ne m'étonne pas en plus. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Et on pourrait se poser la question, mais tiens, tous ces gens qui sont morts au Bataclan, pourquoi eux? Pourquoi dans tel bistrot à côté? Mes frères et sœurs, le problème n'est pas de savoir comment ces gens sont morts. Le problème, c'est à chacun de nous, mais est-ce que je suis vraiment passé par la repentance? Parce que si nous voulons entrer dans le ciel, il ne faut pas faire davantage d'œuvres. Quelqu'un disait tout à l'heure dans sa prière, je crois que c'est une chanson, il rappelait au Seigneur, et en même temps ça nous le rappelle à nous, c'est pour ça que c'est la beauté de l'Église, de la prière à haute voix, que tout ce que nous avons pu voir, tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu entreprendre, eh bien on a pu le faire ensemble, vous êtes d'accord? C'est une grâce ça, on a pu aider, on a pu soutenir, aider une église, aider un pasteur à acheter une voiture, c'est nous qu'on l'a fait, on l'a fait tous ensemble, que son nom soit béni. Mais mes frères et sœurs, au-delà de ce que l'on fait, il doit y avoir cette perception vraiment sérieuse de si oui ou non je suis prêt. Parce que c'est pas parce que je donne de l'argent que je vais être sauvé. Est-ce que parce que je donne la dîme, je vais être sauvé? Est-ce qu'il faut la donner la dîme? Ben oui, il faut la donner. Regardez dans Malachie au chapitre 4, au chapitre 3, et vous verrez ce que Dieu pense. Le culte, c'est pareil. On parle jamais du culte. C'est rare qu'on parle de l'importance d'honorer le Seigneur le jour du Seigneur. Il y a déjà, il manque un culte pour un oui, pour un non. Lisez le livre d'Esdras et vous verrez comment Dieu voit le culte. Et vous savez le décalage qu'il y a entre votre pensée et la pensée de Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'il faut. Il faut que nous connaissions la pensée du Seigneur. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Vos voix ne sont pas mes voix. Donc, ce que l'on fait, on est en train de s'appliquer à dire, mais est-ce que je suis sous la grâce, ou est-ce que je suis sous le poids de la colère divine? De toute façon, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, mes frères et sœurs. Où nous sommes dans la grâce, dans l'arche, et on sait très bien que le déluge ne nous atteindra pas, où nous sommes en dehors de l'arche, et la colère nous atteindra. C'est écrit, la colère a fini par les atteindre. Et vous devez pouvoir, je le dis en sortant de cette église, dire oui, je suis sous la grâce divine. Je sais que le Seigneur est mon Dieu et il me dit ne crains rien car je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie de ma droite triomphante. Ça sera comme ça en 2016. Je n'ai pas changé, dit le Seigneur. Vous le croyez que Dieu vous soutiendra? Oui, c'est imparable. Dieu est fidèle. Il soutiendra les chrétiens qui peuvent dire tu es mon Dieu. Mon Dieu, ça veut dire je t'obéis mon Dieu. Ça ne veut pas dire mon Dieu, non. Il y a des gens qui rentrent sur des stades. Monsieur Gros, j'ai vu un match de foot. Il y a un gars, il est rentré sur le stade. Il a fait le signe de croix. Ça doit être un chrétien, ne vous croyez pas? Je dis, écoutez, bon, quand on voit comment il se comporte quand il perd, je pense qu'il a besoin de faire une expérience avec Dieu quand même. C'est bien, quand il prie, quand il marque un but, ils sont là, ils lèvent le doigt. Et quand il ne marque pas des buts, ils ne lèvent pas le doigt. Hein, ils font autre chose. Et on reconnaît au fruit. On reconnaît au fruit. Est-ce que ma foi, elle est vivante? Ceux qui n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas être agréables à Dieu. La foi, elle vient d'où la foi? Elle vient de la parole. Si vous rencontriez le Seigneur dans la rue et que vous lui dites, Seigneur, augmente-moi la foi, qu'est-ce qu'il va vous dire? Lis la parole. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Ce qui est écrit, je le crois. Vous le croyez, tout ce qui est écrit dans le Saint-Livre? Vous les croyez, ces prophéties, on a lu dans Luc 12, dans Luc 13, il y a une prophétie. On la lit. On pourrait en lire plein de prophéties. Cette prophétie, je l'ai souvent abordée d'ailleurs, Luc 13, 22. C'est une prophétie. Ça se passera comme ça. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Vous voyez, traversant les villes et les villages, ça veut dire que Dieu n'oublie personne. Dieu, aujourd'hui, si quelqu'un dans une ville, dans un village, n'importe où, le cherche, eh bien, il le rencontrera. Vous le croyez? Le Seigneur, si quelqu'un cherche, que ce soit un hindou, que ce soit un bouddhiste, que ce soit un témoin de Java, un riche, un pauvre, si quelqu'un en France aujourd'hui cherche Jésus, il le rencontrera. Et si beaucoup de gens ne rencontrent pas Jésus, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Alors des fois, on reproche au pasteur, au curé d'être des hypocrites, quand ils prêchent pour des enterrements, etc. Mais laissez-moi vous dire, par expérience, si les gens sont furieux quand on est hypocrite, ils sont encore plus furieux quand on leur dit la vérité. Donc le Seigneur, il sait très bien si quelqu'un le cherche. S'il y a quelqu'un ce matin de vrai qui cherche Dieu, écoutez-moi, Dieu se mettra sur votre chemin dans sa bonté. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ça, c'est une question que vous vous êtes posée aussi, non? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, voilà, c'est ça la prophétie. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Vous trouvez comment aller cette parole? C'est terrible ça. Vous rendez compte? Mais ça fait... Écoutez, réfléchissez à ce que je vous dis. À ce que Jésus dit. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est terrible ça. Quand le maître de la maison... Qui c'est le maître de la maison? C'est Dieu. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. La porte, un jour, elle va se fermer. Ce matin, elle est ouverte. Alléluia. Ce matin, vous pouvez rentrer. Vous êtes dehors, vous pouvez rentrer. Repentez-vous. Sérieusement, pas regretter. Ah, c'est vrai, il a raison. Ça me travaille ce qu'il dit. Je suis un chrétien, mais je mens. Je suis un chrétien et je regarde des saletés à la télé. Je parle mal à ma femme. Ou je suis grossier, j'en sais rien. Enfin, je vis dans le péché. Oui, mais repentez-vous. Ne dites pas, oui, c'est pas bien. Et pour recommencer, quand vous serez à table avec votre épouse à midi, repentez-vous et le Seigneur, il vous délivrera. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, mais nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Moi, c'est la parole qui me donne des frissons, même là, dans le dos. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, etc. Mes frères et sœurs, la porte, elle va se fermer. Est-ce que vous le croyez que la porte va se fermer? Vous allez me dire, mais ça fait 2000 ans que Jésus l'a ouverte. Elle sera toujours ouverte, la porte. Mes frères et sœurs, la porte, elle va se fermer. Et si vous ne vous êtes pas repenti, si vous ne vous êtes pas converti, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne serez pas prêt. Parce qu'il y a des gens qui se repentent, mais ils ne se convertissent pas. Et le résultat, c'est que ça ne peut pas tenir. Jésus dit, il croit pour un temps. On se fait du souci. Vraiment, comme on dit parfois, un sang d'encre par rapport au fils prodigue. Ou même les gens qui se baptisent, s'ils ne se convertissent pas, ils ne tiendront pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus a dit, ils reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de vie cachée avec Dieu. Ils font partie de ces gens qui s'imaginent, mais moi j'ai mangé avec Jésus, j'étais dans la rue avec Jésus, je l'ai vu de mes yeux. Mais c'est pas ça qui va vous assurer le salut. Jésus dit, mais je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché sous toutes ses formes. Dans la maison du Seigneur, on ne supporte pas l'iniquité. Dans la maison du Seigneur, on aime l'honnêteté. On est honnête avec Dieu. On connaît la volonté de Dieu, on est honnête. Oui, il y a ça qui ne va pas. Eh bien, je vais en faire une affaire sérieuse. Sérieusement, j'ai un problème. Vous croyez que si je me mets vraiment à genoux devant Dieu, à genoux, c'est une façon de m'humilier, bien sûr. Vous croyez que Dieu va me délivrer, me donner la victoire? Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu de délivrance? Mes frères et sœurs, je ne sais pas quel est votre problème. Quelqu'un me disait l'autre jour, une fille honnête, me dit, monsieur, vous savez ce que j'ai fait? J'ai été obligé de me séparer de la télévision. Je m'en suis débarrassé, mais le problème, c'est que je me suis tourné à fond sur Internet. Oui, le diable, il en a des ressources. Mais frère, je dois savoir. Mais je ne suis pas contre en plus. Ça m'arrive des fois de regarder une bonne émission. Je dis bien une bonne émission. Ça m'arrive d'aller sur Internet. J'y vais voir justement tout ce qui se passe par rapport à l'actualité en Israël. C'est intéressant de voir les deux points de vue plutôt que de voir que le point de vue des Français qui soutiennent, je peux vous dire, qui ne soutiennent pas le peuple juif, croyez-moi. Mais ça vaut la peine de comprendre ces choses. Mais je dois vivre dans la sainteté. Je dois aimer la sainteté. Un chrétien, il aime la sainteté. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, vous l'avez entendu tout à l'heure? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul! Ça veut dire que si je ne me sanctifie pas, mes enfants ne verront pas le Seigneur. Moi, j'ai envie que tous mes enfants voient le Seigneur. Moi, j'ai envie que les gens que je côtoie, je ne sais pas, ils voient que dans l'église de Sainte-Anne, on est contre l'enlèvement. Imaginez, je vais dire un truc bête. Imaginez-vous, ça va arriver dans des églises. L'église est enlevée, le pasteur est enlevé, parce que bon, il s'applique quand même, et il n'y a que 5 chrétiens sur 500 qui sont enlevés. Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui, mais moi, Mais imaginez-vous l'échec pour le pasteur. L'échec. Et c'est sûr que si on ne prêche pas la repentance, si on ne prêche pas la conversion, il y a une jeune fille de l'église, elle est là ce matin, elle peut vous le témoigner. Il y a quelques semaines de cela. Écoutez bien. Non, mais écoutez bien. Vous êtes bien assis? Écoutez bien. C'est pour vous expliquer ce que c'est l'apostasie. Si j'exagère, jeune fille, vous venez à ma place et vous le dites. Elle invite une camarade de la fac à aller à l'église. Cette jeune fille, lorsqu'elle était ado, elle a eu un très très mauvais souvenir des assemblées de Dieu. Jusque-là, je comprends. Est-ce que ça peut arriver? Oui, hélas. Donc, cette jeune fille, disposée, la met dans une autre église évangélique. Et vous savez quel était le thème de la prédication? Le thème de la prédication, c'était l'environnement. Alors, je sais bien qu'un pasteur, un chrétien, il est écolo, c'est sûr. Mais moi, je pense que les gens qui sont perdus, ils n'ont pas besoin d'entendre qu'il faut faire gaffe au tri des bouteilles. Je pense que les gens qui sont perdus, ils ont besoin d'entendre que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix pour le pardon de leurs péchés et que ce Seigneur Jésus-Christ, il a dit « Je suis la porte ». Et celui qui entrera par moi, il sera sauvé. Et celui qui rentrera pas par la porte, il sera condamné. Et la colère de Dieu reposera sur lui. Et vous devez faire attention, parce qu'il y a l'apostasie, elle est en train d'enfermer les gens dans les ténèbres. La Bible le dit, c'est Paul qui dit que celui qui n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, qu'est-ce que Dieu ajoute? Dieu lui envoie une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Et s'il y a tant de gens qui croient au mensonge, ils croient au mensonge, ils croient que c'est la vérité. C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Un chrétien, il a l'amour de la vérité. Dieu parle de la foi. Mais écoute, Seigneur, ce que tu as dit, je le crois. Il y a déjà, il commence à lire la Bible le premier jour. Je l'ai dit l'autre fois. Il commence à lire la Bible au premier jour. Dieu créa le ciel et la terre. Ah, le jour, le premier jour, c'est des jours de 24 heures. C'est quoi? Est-ce que c'est possible? Le premier jour, Dieu a fait ceci. Écoutez, qu'est-ce qu'on s'en fiche vraiment? C'est important pour vous que ce soit des jours de 24 heures, de 1000 ans ou de milliards d'années? Est-ce que c'est important pour vous? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a tout créé. Si vous commencez à douter au premier chapitre, au premier verset, ça va être pénible. Au deuxième livre, moi je vous dis. Est-ce que ma foi elle est vivante? Seigneur, je veux une foi vivante. En 2016, je vais lire la parole, mais je vais manger ta parole. Je sais que la porte, elle va se fermer. Mes frères et sœurs, la porte, je ne sais pas si elle n'a pas commencé à grincer. Elle est en train de se fermer. Dieu patiente. Il use de patience jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Je vous avais distribué cette vision, je ne le fais pas, c'est pas mon habitude, je le répète, de cette femme qui avait vu qu'avant cette troisième guerre mondiale, l'Église serait enlevée. En plus, c'est imparable, bibliquement, ça tient debout. On ne peut pas, je le répète, connaître la colère de Dieu. Mais vous devez savoir si vous vivez dans la sainteté ou dans l'iniquité, si vous vivez dans la paresse. Le sixième texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, c'est sur les gens paresseux. Il y a plein de chrétiens paresseux. C'est un péché, la paresse, parce qu'elle est révélatrice. Elle est révélatrice d'un certain état d'esprit. Est-ce que vous êtes paresseux? Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Un frère qui priait à la longue veille disait, à juste titre, « Seigneur, tu vois, on a compté sur toi, tu as pu compter sur moi. » Mais je ne suis pas sûr que tous les chrétiens de Toulouse peuvent dire « Tu peux compter sur moi. » Oui ou non? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, et je dis, c'est pas pour vous frustrer, c'est pour nous éclairer. Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, tu peux compter sur moi? Oui, tu peux compter sur moi. Je serai fidèle. Tu vas me demander ça, je le ferai. Mais sûr, si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas. Celui qui n'a pas connu la volonté de Dieu, il sera battu d'un petit nombre de coups peut-être, mais il n'aura pas cherché. Il y a des gens qui préparent absolument rien. Mais il y a des gens qui savent, comme ce matin, c'est votre cas, est-ce que vous vous préparez? Je sais, préparer c'est ça, mais je ne veux pas être un paresseux. Peut-être que Dieu vous appelle à telle chose dans l'église. Faites-le. Même si c'est une petite chose au début, soyez fidèles dans la petite chose. Peut-être que Dieu vous appelle à faire le ménage. Pour moi, en plus, ce n'est pas une petite chose le ménage. Bien sûr, ça demande un peu moins de préparation que préparer un sermon. Ça, je le crois, je le pense. Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas aussi important? Eh oui, Dieu voit quand vous passez la serpillière. Si vous le faites... en chantant ou en râlant parce qu'il manque deux sœurs qui ne sont pas venues, et ça fait la troisième fois qu'elles ne sont pas venues. Franchement, hein. Mais qui sait si Dieu ne l'a pas permis? Vous croyez que Dieu peut permettre un truc pareil? Eh oui. Acceptez ces choses. Dieu, il regarde. Il compte sur vous. Et il va vous éprouver. Il va nous éprouver. Et il va nous bénir. Mais qu'importe que chaque épreuve nous approche de Dieu, que chaque bénédiction nous approche de Dieu. Il y a des gens, dès qu'ils sont bénis, tu ne les vois plus. Il y a des gens, comme des gens viennent, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on les aime pareil. Ils viennent, ils ont besoin d'un boulot, ils ont besoin d'un travail, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. On, par la grâce de Dieu et par nos petits moyens, on les aide. Une fois qu'ils sont bénis, on ne les voit plus. Pourquoi ? La bénédiction les éloigne du Seigneur. Mes frères et sœurs, cette année, je vous le dis, vous serez bénis et vous serez éprouvés. Eh bien, que les deux cas de figure vous approchent de Dieu. Que les deux façons vous approchent de Dieu et que nous ayons cette grâce de dire « Oui, je veux vivre dans la sainteté ». Vous rappelez ce gars qui a accepté l'invitation? C'est pas moi qui le dis. C'est le maître de la maison qui a ouvert la porte. Béni soit Dieu pour le jour où il a ouvert la porte, mais qui va la fermer. Et qui a dit « Mais j'ai invité tout le monde, bon et méchant. Plein ont trouvé des excuses. Et le jour des noces, il y en a un qui se pointe, qui était... habillé sans l'habit de noces. Vous vous rappelez cette affaire? Il avait accepté l'invitation. Il y a plein de gens qui acceptent l'invitation, mais c'est merveilleux, l'Église. Oh, je suis heureux, moi, d'être avec des gens qui sont polis, qui sont respectueux. C'est moralement, c'est bien l'Église. Dans une Église saine, il y a de la morale, de l'affection, il y a, etc., de la convenance. Tout, oui ou non? Si vous n'êtes pas, si vous êtes un vrai chrétien, vous avez de ces valeurs, de la moralité, de la propreté, etc., etc. Et il y a des gens qui rentrent, mais ça me plaît, moi, l'Église. Moi, ça, c'est ce dont j'ai besoin. Mais on a besoin de plus que ça. Comment es-tu entré ici sans avoir revêtu un habit de noces? Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est l'image de la sainteté. Quand on entre dans le royaume de Dieu, on vit dans la sainteté. On ne vit pas dans la sainteté le dimanche de 9h30 à 11h30. On vit dans la sainteté tous les jours et toutes les nuits de la semaine. Oui ou non? C'est comme ça que je me prépare. Seigneur, je vis dans la sainteté. Je vis dans l'honnêteté. Je vis dans une activité joyeuse. Et arrêtez de grâce, arrêtez de dire « j'ai pas le temps de servir Dieu, j'ai pas le temps de prier ». Moi, je peux vous dire que ça vient de l'enfer même, ça. Ça vient pas de Dieu. Écoutez-moi bien. Ça vient de l'enfer. Dieu vous donnera du temps pour que vous vous retrouviez dans sa présence. Et si vous retrouvez pas dans sa présence, la seule explication, c'est que vous n'avez pas envie de sa présence. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie d'être dans sa présence. Oui ou non? Moi, mes enfants sont venus à Noël, ils sont tous venus, et bien je languissais qu'ils arrivent. Parce que j'avais envie de voir ma fille, mes petits-enfants, j'avais envie de les voir. De les embrasser, de passer du temps, de jouer avec eux. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on a besoin de passer du temps avec lui. Si vous n'avez pas besoin de passer du temps avec le Seigneur, mais vraiment, je vous plains. Et vous allez faire partie de ceux qui vont se retrouver dehors. Et moi, je n'ai pas envie que Dieu me reproche cette affaire. Quand je lis Ézéchiel en ce moment, je lis Ézéchiel en boucle, et quand je vous lisais comment Dieu parle... Mais lisez ce livre. Ça fait pitié, vraiment. Dieu est obligé, à un moment donné, d'appeler son peuple prostitué. Lisez-le. Des fois, on parle de rebelles. Bon, grâce de rebelles, il dit ça 50 fois peut-être. Mais à un moment donné, on voit bien, pour les faire réagir, il va plus fort. Il dit, mais tu es une prostituée. Mais vous rendez compte comment Dieu est obligé de parler à son peuple? Vous ne trouvez pas que ça devait être terrible dans le cœur du Seigneur? Vous croyez que ça devait être terrible? Il est obligé de leur parler comme ça. Mais parce qu'il y a des gens, c'est exactement ça. Ils se sont prostitués, c'est-à-dire qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Ils vivent dans l'adultère spirituel. Je ne parle pas de la prostitution physique, n'en parlons pas, alors c'est même pas la peine. Mais de l'adultère spirituel. Ils aiment le monde. Et la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père, n'est pas en lui. Et Dieu dit, mais lisez, vous savez bien que je n'invente rien. Tu es une prostituée. Alors mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde cette grâce de lire l'Évangile. Est-ce que vous avez envie de lire cette année? Vous aimez lire la Bible? Est-ce que vous aimez lire la parole? Eh bien, vous êtes heureux. Si vous aimez lire la parole, vous allez veiller. Si vous veillez, vous avez de fortes chances de prier et vous serez debout. Et Dieu peut vous redire, ce qu'on a lu dans Ésaïe. Ne crains rien. Ne crains rien. ne porte pas des regards inquiets, je vous dis, ça va déménager. Ça va aller mal, mes frères et sœurs. Et c'est rien. L'autre jour, aux infos, on interviewait un spécialiste du terrorisme. Et on disait à ce spécialiste du terrorisme, est-ce qu'on est arrivé au summum de la violence? Et le gars a dit, oui, on est arrivé au summum de la violence. J'ai presque envie de lui envoyer le livre d'Apocalypse pour qu'il réalise qu'il a oublié un truc. Mes frères et sœurs, ce sont des broutilles. Mais lisez Ézéchiel 38-39 et vous allez voir comment la terre va être ébranlée. Mais nous allons partir et nous allons être fortifiés par le Seigneur. Nous allons faire des expériences nouvelles avec Dieu. Ne vous inquiétez pas, ne porte pas des regards inquiets. Vous entendez mes frères et sœurs? Ne portez pas des regards inquiets. Bien sûr, ça fait de la peine. Cette peine, mais déposez-la. Vous avez de la peine pour les gens qui sont perdus? Franchement, moi ça me fait mal au cœur. Déposez cette peine. Déposez cette peine. Vous savez, je termine avec ce témoignage. Il y a 7 ou 8 ans de ça. Oui, j'étais ici encore, j'habitais là. Il y a 7 ou 8 ans ou 9 ans, j'étais découragé. Découragé. Ça a duré 10 jours. Mais découragé. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour être découragé? Et je priais. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as été maladroit. Tu as commis un péché. Et je priais. Mais je dis, montre-moi ce que tu as fait, Seigneur. Et dans un moment de prière, écoutez bien, dans un moment de prière, le Seigneur m'a montré quelque chose. Vous allez peut-être pas le croire. Les chrétiens spirituels, ils vont comprendre. Les chrétiens qui ne sont pas spirituels, vous n'allez pas comprendre. Le Seigneur m'a montré que le fardeau des âmes passait avant l'adoration. Il n'est pas dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, puis Dieu. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain. Et moi, je vous le dis franchement, ça paraît bien. Le fardeau des âmes était en train de me détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'avais tellement le fardeau des âmes que j'en devenais malheureux, découragé. Ça fait mal au cœur, le fardeau des âmes. Oui ou non, les âmes perdues? Et j'ai dit, non, je vais t'aimer, Seigneur, en premier. Et ça a pris 10 secondes. Et j'ai retrouvé cette joie, cette grâce, cette paix, parce que j'ai mis Dieu en premier. Ne porte pas des regards inquiets. Que t'importent les autres? Toi, suis-moi. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est pas moi qui vous le dis. Moi, je peux vous souhaiter les vœux, prendre un verset qui va vous faire plaisir. Non, ça sert à rien. C'est Dieu qui te dit, mon frère, si tu es fidèle, ne crains rien. Si tu es obéissant, ne crains rien. Ne porte pas des regards inquiets, tu vas voir les gens tomber à ta droite, tu vas voir tomber les gens à ta gauche. On va voir des choses terribles, mais qui sont pourtant rien en comparaison de ce qui va arriver après l'enlèvement. Si vous n'êtes pas enlevé, vous vous souviendrez de ces choses et vous vous diriez, j'aurais bien fait de me convertir le 3 janvier. 2016, j'aurais mieux fait de revenir à Dieu, parce que je parle aux pécheurs, mais je parle aux rétrogrades, ou aux méchants, comme dit la Bible. Alors on va fermer les yeux quelques instants. Je voudrais qu'on prenne 2 ou 3 minutes, avant de prendre le pain et le vin, que vous répondiez. Écoutez, si Dieu m'a mis à cœur cette prédication, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ils n'ont rien préparé. Ils n'ont rien préparé. Ils font partie de l'Église, oui, mais ils ne font pas partie de l'épouse. C'est ça, l'Église s'est préparée, elle s'est revêtue. De sainteté, de service, d'honnêteté, de foi. Est-ce que vous avez revêtu ces habits ou cette armure? Répondez au Seigneur, ne répondez pas à moi, ne priez pas haute voix, c'est personnel. Vous savez, mes frères et sœurs, on a le temps, il n'est même pas 11h, on a le temps de répondre joyeusement, sérieusement. Ce n'est pas parce que Dieu donne beaucoup d'espoir que les choses ne sont pas sérieuses. On a le temps pour prendre la Sainte-Seine, on a le temps pour ce moment. Et si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Je m'adresse à nos enfants, à nos ados. Moi, je crois qu'à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, on peut vraiment se repentir, se convertir. Dieu nous voit, on est sous son regard. Vous entendez, mes frères et sœurs, Dieu te voit et Dieu t'aime. La porte, elle est ouverte. Ce que Jésus a dit dans la synagogue de Nazareth, il peut le redire ce matin. Je suis venu publier une année de grâce. Alléluia. Cette année, elle va se terminer de grâce. La colère va venir. Dieu nous avertit. Il nous a même averti il y a 2600 ans. Alors ce matin, on est heureux parce que la porte est ouverte. Et je propose à tous ceux qui veulent renouveler leur engagement, leur vie avec le Seigneur, leur communion avec Dieu, de se lever à leur place. C'est un engagement. C'est entre vous et Dieu, c'est solennel. Dieu va voir votre désir de dire il faut que ça cesse, cette légèreté, cette tiédeur, cette paresse, cette méchanceté, j'en sais rien, cette superstition, etc., etc. Mais moi, je crois que Dieu honore la foi, honore l'obéissance. Alors, si quelqu'un veut se lever, levez-vous à votre place. On est sous le regard de Dieu. C'est sérieux pour donner son cœur ou pour lui redonner son cœur. Ne jouons pas les hypocrites. Soyons vrais devant Dieu. C'est trop sérieux. Dieu sait, mais moi je vous assure, ça me fait peur de voir les chrétiens. Il y en a qui mentent, il y a des chrétiens qui mentent et ils s'en rendent même plus compte. Mais lève-toi. Si le dimanche pour toi c'est de la légèreté, si tu manques le culte pour aller à la mer, te promener, écoutez-moi, c'est un péché. Une fois de temps en temps, à la limite, je veux bien. Mais il y a des gens, c'est 3 dimanches par mois qu'on ne les voit pas, ils vivent dans la désobéissance. C'est sérieux, vous allez me dire, mais c'est toi qui le penses. Demandez au Seigneur si ça vient de moi ou si ça vient de lui. Si ça vient de moi, eh bien allez vous promener 3 dimanches par mois. Mais vous allez vérifier devant Dieu que je crois qu'il faut honorer le jour du Seigneur. Alors je voudrais prier. Peut-être il y a un enfant, un ado, qui dit, mais il faut que je me convertisse. Je n'ai pas envie de me retrouver un matin tout seul dans la maison. Mes parents, mes frères et sœurs qui sont partis dans la gloire, et moi je vais vivre ces années de colère. Eh bien, levez-vous. Moi, je n'ouvre même pas les yeux, parce que c'est entre vous et Dieu. Je ne veux même pas savoir qui se lève. Ça ne me regarde pas. Si vous avez besoin d'entretien, eh bien, vous le solliciterez. Mais je vais prier. Vous ne pourrez pas dire que Dieu ne vous a pas appelé, que Dieu ne vous a pas rappelé ou réappelé. C'est écrit dans la Bible, ça. Je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Ce matin, Dieu t'appelle. Il t'appelle, c'est sérieux. Je sais qu'il y a quelqu'un dans ce lieu encore qui a besoin de se lever. Je ne le connais même pas, moi. Mais il a besoin de se lever et de dire, Seigneur, je me repens. Je veux me convertir. Je veux naître de nouveau. Je vais lire ta parole. Je vais même, comme disait Jérémie, je vais la dévorer, ta parole. Je vais prier. Notre Père, jamais nous ne te remercierons assez pour ta parole. Jamais nous ne te remercierons assez d'avoir abandonné ton ciel de gloire. Toi, le Créateur du monde, le Dieu Tout-Puissant, pour venir sur la croix comme un malfaiteur, on t'a déshabillé, on t'a fouetté, tu n'as rien dit. Et comme le disait la prophétie, oui, nous attendons ce jour où nous verrons la marque dans tes mains. Ça sera vraiment pour nous, Seigneur, un jour de fête. Ce jour où nous verrons la marque dans tes mains, la marque dans tes pieds. Seigneur, quel bonheur pour nous. Tu vois ceux qui se sont levés. Ce que tu appelles à la croix à nouveau. Ce que tu appelles à la restauration. Ce que tu appelles à la consécration, à la sainteté. Ce que tu appelles à l'obéissance. Seigneur, fortifie-les. Tu n'as jamais mis dehors, jamais, celui qui revenait à toi. Et tu as dit que même le méchant, s'il revenait de sa méchanceté, eh bien tu le purifierais. Tu l'as dit, je ne sais pas combien de fois, pour qu'on le comprenne bien, Seigneur. Alors merci pour ces moments. Merci du fond du cœur. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus.